auditeurs d'RGM. Pour l'émission La Parole est à vous, avec aujourd'hui un magazine environnement, avec Jean-Joseph,
qui va nous présenter
avec ses invités.
Hein, alors, voilà, donc du coup, je vais passer assez vite la parole aux invités. Donc, Dominique Andrès, qui est président du syndicat mixte Moselle-Amont, donc qui nous expliquera un petit peu qu'est-ce que c'est cette entité administrative, hein, donc avec donc lui en tant que président, donc représentant des élus. Et puis Michel Laurent Topiac, pardon, donc qui lui sera le représentant du personnel de ce syndicat. Donc je vais leur donner rapidement la parole pour qu'ils puissent nous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est. Voilà. Donc peut-être toi, Dominique, en premier.
Bonjour. Je vais vous parler un petit peu du syndicat Mix Moselle-Amont. Effectivement, c'est une structure qui est relativement récente puisque le syndicat a été créé au 1er février 2022. Donc, on est encore tout jeune par rapport aux différentes collectivités qui sont sur notre territoire. Et c'est un syndicat qui exerce la compétence GEMAPI. Alors, GEMAPI, c'est un mot un peu abstrait. C'est une abréviation en fait, et on peut quand même la trouver sur sa feuille d'impôt quand on reçoit sa taxe foncière, avec une petite ligne qui est marquée taxe GEMAPI. GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et c'est une compétence que l'État a confiée au comité de communes et au comité d'agglomération en 2018, et donc elle leur a donné la compétence, mais l'État leur a pas donné l'argent avec, mais leur a donné la possibilité de lever un impôt pour pouvoir financer cette compétence. Et donc cette compétence consiste à gérer les rivières, la gestion des milieux aquatiques. Donc on développera, je pense, en quoi ça consiste. Et puis un côté qui est plus compréhensible, c'est la partie prévention des inondations.
Voilà, juste, je te coupe un petit peu. Juste rappeler que les syndicats, c'est en fait donc un échelon ou un petit peu au-dessus des communes, on va dire, au départ, puisque au départ les communes se sont associées pour gérer un certain nombre de choses, par exemple les ordures ménagères, par exemple les réseaux électriques, enfin etc. Ils ont mis en commun leurs moyens. Du coup, au départ, donc les syndicats, c'était dans ce cadre-là. Ensuite, les communautés de communes sont arrivées et ont adopté un certain nombre de compétences de manière obligatoire ou de manière optionnelle, hein, c'est-à-dire que parfois ils avaient le choix de rentrer dans un rassemblement, donc un syndicat qui rassemblait plusieurs communautés de communes. Et donc le syndicat mixte Moselle-Amont et en fait donc cette compétence sur les milieux aquatiques qui lui est donc déléguée par un certain nombre de communautés de communes.
Tout à fait, c'est-à-dire que les rivières se moquent un petit peu des limites administratives.
Des découpages, oui. Hein,
et donc agir sur les rivières de manière séparée, chacun dans son coin, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Même si certaines collectivités avaient déjà largement commencé et bien avant que la compétence existe, hein, il faut le dire. Et donc toutes les communautés de communes et d'agglos qui se trouvaient sur le bassin versant de la Moselle dans le département des Vosges, hein, c'est-à-dire toute l'eau qui finit dans la Moselle, donc ça englobe la Moselle et ses affluents. Parmi les affluents, donc évidemment notamment le Durbion, la Moselotte, je vais surtout pas oublier aujourd'hui ici la Vière, le Durbion. Et donc
et la Vologne.
La Vologne. Ah oui, alors surtout parce que j'ai oublié autour de cette table. Et donc tous les collectivités qui étaient concernées sur ce territoire ont décidé d'exercer la compétence en commun à travers notre syndicat, ce qui représente 5 communautés de communes et 2 communautés d'agglomération, mais pas sur l'entièreté de leur territoire.
Donc, mais en tout cas, donc la base des élus du syndicat mixte Moselle-Amont, donc rassemble des représentants de la com d'agglo, la communauté d'agglo d'Épinal, qui est la plus en aval. Et quand on repart vers l'amont, du coup, on a
la communauté de communes de la porte des Vosges méridionales, donc secteur de Remiremont. Si on remonte en plus, on a la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, donc c'est le secteur de Thiot, Saint-Maurice-sur-Moselle,
Haute-Moselle.
La Haute-Moselle. Et puis donc, on a également la communauté de communes des Hauts-de-Vosges avec la Moselotte. La communauté de communes Bruyères-Vallon des Vosges, avec notamment la Vologne, plus son affluent qui concerne plutôt la communauté d'agglomération de Saint-Dié, avec le Nonnet sur le secteur de Corcieux. Et j'ai oublié quelque chose. La communauté de communes Gérardmer Haute-Vosges, voilà. Donc, bon, avec les lacs et la Cleurie.
Voilà, donc du coup, effectivement, c'est la carte... en fait, de ce qu'on appelle le bassin versant de la Moselle. Donc, vous, c'est Moselle amont. Du coup, ensuite, il y a Moselle aval.
On a deux homologues qui recoupent la partie Moselle française. Donc, on a un petit peu plus au nord sur le secteur Meurthe-Madon. C'est le PTB Meurthe-Madon qui s'occupe notamment de l'agglomération de Nancy, mais qui remonte jusque Saint-Dié et sur le Madon, donc qui englobe aussi une bonne partie des Vosges, du département des Vosges. Et puis, plus au nord, donc, on a nos homologues du syndicat mixte Moselle aval qui ont les mêmes initiales que nous. Donc, qui vont jusqu'à la frontière luxembourgeoise.
Voilà. Donc,
c'est énorme comme territoire.
C'est tout le bassin de la Moselle.
Sur une surface.
Après,
énorme. Ça représente une surface importante dans le département des Vosges. C'est ce qui fait, ce qui justifie l'existence de notre syndicat et ce qui rend aussi notre mission passionnante. Parce qu'on intervient sur un territoire important.
Et votre siège social, c'est où exactement ?
Alors pour l'instant, notre siège se trouve à Arches, mais nous allons bientôt nous installer, pas très loin d'ici, à Remiremont.
Voilà, donc après, tout le territoire français est découpé en syndicats
Non, pas tout le territoire. D'ailleurs, même sur la partie Moselle, il y a encore des trous, puisque les trois entités que j'ai évoquées tout à l'heure ne recouvrent pas entièrement les communautés de communes. Entre Moselle amont et le PTB, on a deux ou trois communautés de communes qui ne sont pas intégrées dans une collectivité. Donc, elles continuent à exercer elles-mêmes la compétence sur leur territoire. Ce qui rend les choses pas très faciles dans la mesure où une petite entité n'a
pas les moyens.
Au niveau financier, ça peut poser des problèmes.
Laurent, peut-être que tu peux compléter, parler des missions.
Alors, au niveau des missions, effectivement, une bonne partie des missions qu'exerce aujourd'hui le syndicat mixte Moselle amont sont héritées des projets qui ont été développés par les communautés de communes avant le transfert de la compétence. En l'occurrence, on travaille sur de la restauration des cours d'eau, de manière à restaurer leur bon fonctionnement et à limiter un petit peu par ce biais le risque d'inondation. Donc là, on a hérité des programmes des EPCI et en parallèle, depuis la création du syndicat mixte Moselle amont au 1er février 2022, plusieurs projets ont émergé avec un intérêt et puis une implication de l'ensemble du bassin versant. Et je pense notamment là à une étude qui démarre au printemps prochain, qui est l'inventaire complet des zones humides, des milieux humides sur le bassin versant.
Voilà, donc du coup l'idée c'est de ramener les fleuves, rivières, on n'a que des rivières, donc à leur milieu naturel, à leur aspect naturel.
Alors oui, tout dépend du repère qu'on a. C'est vrai qu'on a dans les Vosges des cours d'eau qui ont été considérablement utilisés et aménagés pour fournir de la force motrice, de la force hydraulique, avec des usages qui, au fur et à mesure des siècles ou des décennies, ont changé, ont périclité, et donc on essaye, quand il n'y a plus d'usage sur certaines anciennes prises d'eau, sur certains anciens canaux, qui étaient des canaux d'amener vers des moulins ou alors des canaux d'irrigation, à ce moment-là, on essaye de redonner, oui, un aspect le plus naturel possible au cours d'eau, de manière à ce qu'il retrouve un fonctionnement qu'on appelle un fonctionnement équilibré.
Voilà, donc du coup, parfois peut-être en conflit un peu, on va dire, avec éventuellement des remises en route de centrales, de choses comme ça.
Alors, conflit, je ne dirais pas ça, mais concrètement, aujourd'hui, la plupart des ouvrages qui étaient rentables pour l'hydroélectricité, pour la production hydroélectrique, ont été équipés, hein, sont tenus par des sociétés diverses et variées ou des propriétaires divers et variés. Et aujourd'hui, il reste quand même un grand nombre d'ouvrages qui sont des ouvrages qu'on va dire orphelins et qui aujourd'hui ne sont plus du tout gérés, qui sont en état de délabrement et pour lesquels investir des sommes assez considérables pour équiper en turbine et reconstruire tout le système hydraulique reviendrait à avoir des retours sur investissement qui n'intéressent aujourd'hui personne, si ce n'est peu de monde.
Oui, est-ce qu'il y a des projets encore actuellement? Je sais que sur Bain-les-Bains, il y a le projet de...
Alors, Bain-les-Bains, c'est oui. Pas sur notre secteur, mais notre périmètre d'intervention.
Ah, oui,
mais
c'est ça,
oui, effectivement, il y a encore quelques projets qui existent et vis-à-vis desquels nous ne sommes pas forcément en conflit. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où le porteur de projet n'ait pas les moyens de s'investir ou d'investir les montants nécessaires à l'équipement d'un ouvrage pour produire de l'hydroélectricité, à ce moment-là, nous, on prendrait le relais pour libérer le cours d'eau du point de blocage, ou en tout cas de ce qu'on appelle le point dur que constitue cet ouvrage.
Oui, donc la vallée de la Moselotte et celle de la Vologne aussi sont très à l'image du problème justement de l'eau qui est des barrages qui détournent la quasi-totalité de, mis à part un demi des puits réservés qui est parfois
textile.
Voilà, donc en fait l'implantation des industries au départ des moulins, des scieries, puis des industries textiles a fait que effectivement il y a sans arrêt l'eau qui est prélevée, ensuite rejetée dans le milieu naturel et puis reprélevée quasiment tout près du rejet. À une époque, je m'intéressais beaucoup sur la vallée de l'Adour au fait qu'ils avaient réussi à organiser un turbinage toujours de la même eau sans la rejeter et la reprendre dans le milieu naturel. Je trouvais que c'était intéressant et j'aurais bien aimé à une époque qu'on fasse ça le long de nos rivières à nous, quoi, en fait. Hein. Mais c'est compliqué de réunir tous les industriels. Voilà.
Oui, effectivement. Après... il y a des réglementations hein, qui existent et qui font que on ne peut pas prélever l'eau quand il commence à en manquer. Hein. Par exemple, lors d'arrêtés sécheresse en période estivale, il est privilégié le fait de laisser de l'eau au milieu aquatique pour préserver la biodiversité et la vie qui règne dans nos cours d'eau.
Voilà, justement, peut-être qu'on peut parler de cette biodiversité. En quoi c'est intéressant, quelles actions on peut mener, parler un petit peu. Alors, aussi des zones humides, enfin tout ça.
La première chose à dire sur la biodiversité qui peuple nos cours d'eau à l'échelle du bassin Moselle-Amont, c'est que elle est d'ores et déjà en situation de tension vis-à-vis d'un phénomène qu'on observe et que aujourd'hui peu de gens s'avèrent nier, c'est le réchauffement climatique. En l'occurrence, par ce réchauffement, ce dérèglement, on observe des périodes qu'on appelle des périodes d'étiage, c'est-à-dire des périodes estivales où il reste assez peu d'eau dans nos cours d'eau, qui sont de plus en plus prononcées, qui commencent de plus en plus tôt et durent de plus en plus longtemps. Et on va dire que sur la partie amont, sur les petits cours d'eau, en tout cas sur la partie massif, on est en présence de ce que l'on appelle des rivières de première catégorie, c'est-à-dire des rivières dans lesquelles les peuplements dominants doivent être des peuplements de salmonidés, donc truites fariou, ombre commun, avec le cortège d'espèces qui lui est associé, c'est-à-dire, voilà, au niveau poisson, ce qu'on appelle poisson fourrage, on a ce qu'on appelle les pacots, et puis les vairons, entre autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces espèces sont en souffrance vis-à-vis notamment des températures relevées dans les cours d'eau, hein, puisque lorsqu'on est en période de canicule, qu'il y a déjà relativement peu de débit, eh bien, imaginez qu'un cours d'eau qui, sur une bonne partie de sa longueur, est laissé en plein soleil, en absence de végétation, ce qu'on appelle la ripisylve, eh bien, c'est un cours d'eau qui va s'échauffer, surchauffer, évaporer beaucoup justement de liquide, et au final laisser des espèces en très forte souffrance. Pour donner un exemple, la truite fario, sa température létale, c'est 24 degrés. C'est-à-dire que si la température atteint 24 degrés, on perd tous les individus adultes en âge de se reproduire. Les jeunes ont un petit degré de résistance supplémentaire, mais arrivé à 25 degrés, la plupart des individus sont morts.
Oui, donc du coup, ces échauffements de l'eau, c'est favorisé par l'eau stagnante, du coup l'insuffisance de débit, et puis justement donc l'absence de ripisylves qui ombragent les cours d'eau.
Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est un enjeu d'avenir.
Voilà, enfin, on va peut-être continuer sur la biodiversité. Tu parlais de première catégorie. La partie... alors, on dit que même à Épinal, la Moselle a un régime torrentiel, avec des très grandes variétés. Et on le voit bien en été avec l'étiage, qui est quand même avec un débit très faible de la Moselle.
Oui. Alors, dans le cadre des observations et des mesures qui sont effectuées hein, sur les débits des cours d'eau, on constate que l'on est passé ce que l'on appelle d'un régime pluvio-nival, c'est-à-dire un régime où les crues sont engendrées par l'accumulation de pluie avec la fonte des neiges, à un régime totalement pluvial, pour ainsi dire, sur les 20 dernières années. On travaille en partenariat avec les homologues que l'on a plus en aval, que Monsieur Andrès décrivait tout à l'heure, donc le PTB Meurthe-Madon, établissement public territorial de bassin, et puis le syndicat mixte Moselle Aval, sur une étude qui porte sur la quantité de ressources disponibles, dans la mesure où on s'aperçoit qu'on a peut-être des crues plus intenses qu'avant, mais aussi des manques qui sont beaucoup plus prononcés qu'avant, au point parfois de compromettre les activités humaines et l'adduction d'eau potable aux citoyens.
Oui, c'est finalement donc le réchauffement climatique qu'on peut appeler changement climatique, c'est en fait effectivement une plus grande variation des écarts en fait, et des écarts de plus en plus grands, des sécheresses de plus en plus intenses et des épisodes humides de plus en plus intenses. Mais globalement, on prévoit plutôt presque une augmentation des quantités de pluie dans notre secteur.
Alors, paradoxalement, sur les 30 dernières années, le paramètre pluviométrie est resté relativement stable. Pour autant, et c'est ce qui nous a amené à mener l'étude avec nos homologues du bassin de la Moselle française, on s'est aperçu que sur la partie du massif des Vosges, on a perdu 30% de débit moyen par an depuis l'an 2000, en fait. En 20 ans, on a perdu 30% de débit, c'est-à-dire que la quantité d'eau moyenne qui passe sur une année à un point donné de nos cours d'eau, on peut parler d'Épinal, bien par exemple, ce débit moyen a diminué de l'ordre de 30%. Et on est sur des perspectives qui nous amènent à envisager que les débits puissent baisser encore de manière assez sensible dans les décennies à venir, puisque un des gros facteurs qui alimentait les sources et les affluents de nos cours d'eau, c'était la fonte des neiges. Au printemps ou en période hivernale avec des redoux, quand on avait un important manteau neigeux sur les crêtes au-dessus de, on va dire, 900 ou 1000 mètres d'altitude, vous aviez une fonte qui était très lente, donc qui percolait très doucement à travers les sols, qui s'infiltrait dans les failles sur les socles granitiques qui constituent notre massif, alors qu'aujourd'hui ces importants manteaux neigeux font défaut, on le constate tous chaque année, et en lieu et place on se retrouve avec une pluviométrie effectivement importante, beaucoup de pluie, et la pluie, au lieu de percoler à travers le sol très lentement, de s'infiltrer vraiment en profondeur, elle va essentiellement ruisseler, et c'est ce qui explique aussi la perte de ces débits moyens.
Oui, ce qui est un peu... Parce que finalement, si on a un débit moyen qui est plus faible, ça veut dire que globalement, la quantité d'eau qui tombe sur le massif diminue ?
Pas forcément, c'est simplement la manière dont cette eau va aller alimenter nos cours d'eau qui devient moins efficiente.
Oui, elle devrait être plus forte puisqu'il y a moins de percolation.
Et justement, ça ruisselle. Donc effectivement, on a des crues qui sont même parfois des crues éclairs. On retrouve ça de plus en plus régulièrement avec les inondations par ruissellement qui touchent certains secteurs. On a eu des exemples sur le secteur de Chaumouset, sur le secteur de Dévillé, sur le secteur de Gérardmer il n'y a pas longtemps. Donc voilà, d'année en année, on observe des nouveautés. Mais en l'occurrence, au final, cette eau, elle passe très vite et elle n'est plus stockée dans nos réserves, dans nos nappes alluviales.
Oui, ce qui pose un problème par rapport, effectivement, à l'alimentation de ces nappes pour après l'utilisation d'eau potable.
Voilà.
Voilà, donc on va peut-être faire une petite pause musicale, la première.
« On ne met pas ses enfants sur l'eau. 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 Si l'eau n'est pas plus sûre, 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 que la terre où l'on vit, que la terre où l'on vit, que la terre où l'on vit, que la terre où l'on vit. Chiadarando ai tuoi campi, che la terra donde vives. Chiadarando ai tuoi campi, che la terra donde vives. On ne met pas sa vie sur un radeau.
On ne met pas sa vie sur un radeau.
On ne met pas sa vie sur un radeau.
On ne met pas sa vie sur un radeau.
Si l'eau n'est pas moins dure, 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 que l'enfer de nos vies. L'enfer de nos vies,
que l'enfer de nos vies, que l'enfer de nos vies.
Que l'inferno due tu campi e l'inferno donde vives. Que l'inferno due tu campi e l'inferno donde vives. On ne part jamais le cœur bien haut.
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 Si l'espoir n'est pas plus chaud, si l'espoir n'est pas plus chaud. Si l'espoir n'est pas plus chaud, si l'espoir n'est pas plus chaud. Dans les cales d'un bateau, dans les cales d'un bateau. In fondo a una vercella e nel fondo di un barco. In fondo a una vercella e nel fondo di un barco. On ne part jamais risquant sa peau.
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 Si l'eau n'est pas plus sûre, si l'eau n'est pas plus sûre. Si l'eau n'est pas plus sûre, si l'eau n'est pas plus sûre. Que le ciel sur nos vies, que le ciel sur nos vies.
Que le ciel sur nos vies, que le ciel sur nos vies.
Che un cielo dia da vita, che è il cielo de tu vita. Che un cielo dia da vita, che è il cielo de tu vita.
Voilà, retour à l'émission. Donc, on parlait tout à l'heure de rivières de première catégorie. Donc, ce qui définit les catégories, c'est la population donc, du milieu aquatique, donc en l'occurrence les poissons. Donc, du coup, il existe une partie du territoire qui est en deuxième catégorie, lui.
Oui, effectivement, pour faire simple, il s'agit plutôt de ce que l'on va appeler des cours d'eau de plaine. Et donc la Moselle en aval d'Épinal est classée en deuxième catégorie, de même que le bassin versant du Durbion en aval de la commune de Dompierre et puis la partie aval aussi, donc la partie basse de la vallée de la Vière.
Oui, oui, donc du coup, quand effectivement le relief fait que finalement on arrive à des eaux qui ont un débit plus régulier et plus faible.
pas forcément plus faible, mais plus lent.
Oui, c'est ça, une vitesse, en fait. Voilà, c'est pas exactement. Un débit, c'est une vitesse, voilà.
Et donc, dans ces cours d'eau, on va y trouver, on peut encore y trouver quelques salmonidés, hein, tels que des truites ou des ombres communs. Ça arrive. Mais on va y trouver essentiellement ce que l'on appelle, oui, des populations de cyprinidés. Donc, c'est la famille des carpes, des gardons, des barbeaux, des chevennes. Tout un ensemble d'espèces qui, que l'on va retrouver un peu plus largement, d'ailleurs, partout en France.
Est-ce que donc du coup, première catégorie ou deuxième catégorie, c'est important par rapport à une législation, par rapport à des travaux, des choses comme ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce découpage, nous, ça nous permet de savoir ou de définir en tout cas les méthodes et les périodes d'intervention. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des truites, on sait que les truites commencent à remonter pour se reproduire, elles remontent vers les têtes de bassin, à partir des premières pluies automnales, quand le temps se rafraîchit et que les cours d'eau commencent à monter, à ce moment-là, elles vont chercher à gagner les sites de frayère vers les sources, se rapprocher des sources pour avoir de l'eau de qualité. Et en général, ça commence, on va dire, à partir du mois d'octobre. Et c'est ce qui fait que, par exemple, au 31 octobre, on doit arrêter tous travaux, nous, dans nos cours d'eau, jusqu'au 1er avril. De manière à ne pas compromettre la reproduction des truites fario, qui sont les truites de souche de nos vallées.
Voilà, donc du coup, ça a un impact sur la vie des citoyens. Normalement, quelles sont les obligations d'un propriétaire de terrain, celui qui a un ruisseau près de chez lui
Alors, un propriétaire riverain de cours d'eau a une première obligation qui est celle d'entretenir le cours d'eau. Il faut préciser que sur le syndicat mixte Meuse-Alamont, sur notre périmètre, nous sommes sur des cours d'eau qui sont dits des cours d'eau non domaniaux, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à l'État, et ils sont donc la propriété des riverains. Les cours d'eau font souvent la séparation entre deux propriétés, et chaque propriétaire, de part et d'autre, est propriétaire jusqu'au milieu du limineur, c'est-à-dire au milieu de la partie qui reste constamment en eau du ruisseau. Et donc, chacun doit s'entendre avec son voisin pour procéder au bon entretien de la végétation, faire en sorte qu'il n'y ait pas de troncs d'arbres qui partent et qui aillent se mettre sur les piles de ponts en traversée urbaine pour aggraver les inondations, etc., etc. Et voilà. C'est très réglementé et tant qu'on intervient, on va dire manuellement, pour faire simple par rapport aux auditeurs, tant que vous intervenez manuellement, il n'y a pas d'autorisation ou de déclaration à faire. Par contre, à partir du moment où vous utilisez des moyens mécaniques, que vous travaillez avec un engin dans le cours d'eau, là, il vous faut faire une déclaration auprès de la direction départementale des territoires et de la police de l'eau en particulier.
Voilà, parce qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens lambda qui habitent près d'un ruisseau, a l'impression que maintenant tout est interdit. Et du coup, plus personne n'ose toucher, y compris en laissant tout et n'importe quoi dans le ruisseau, qui peut éventuellement, donc du coup, alors les seuls éventuellement qu'on a l'impression qu'ils ont le droit d'intervenir, c'est les pêcheurs qui, eux, déplacent des pierres, créent des petits barrages artificiels qui sont sans doute intéressants pour oxygéner l'eau. Je ne sais pas si c'est quelque chose à encourager. Ou...
Oui, de toute façon, alors vous parlez... Alors déjà, on entend souvent dire effectivement que plus rien n'est autorisé. En fait, à partir du moment où vous n'intervenez pas avec un engin, on va dire que tout est quasiment autorisé. Si vous partez du principe que vous respectez la réglementation, donc par exemple, réglementation cours d'eau de première catégorie, je n'interviens pas dans le cours d'eau durant la période de reproduction des truites. Donc du 31 octobre, du 1er novembre, jusqu'au 1er avril. Là, on n'intervient pas. Par contre, en dehors de cette période-là, si vous intervenez avec des moyens manuels, vous n'avez aucun souci normalement. Après voilà, il y a des activités comme extraire les sédiments, etc., qui sont là par exemple un peu plus surveillées, réglementées. Et derrière, effectivement, vous évoquez les pêcheurs, qui sont nos principaux partenaires, qui sont des acteurs qui veillent autant que nous sur la qualité des cours d'eau, si ce n'est plus, parce qu'ils en ont la connaissance, et nous travaillons en complémentarité avec les associations locales de pêche, qui sont, outre des associations locales, aussi des associations de protection des milieux aquatiques. Et nous travaillons à l'échelle départementale aussi avec la Fédération départementale de pêche, qui est un de nos partenaires privilégiés.
Oui, en particulier, c'est des partenaires pour créer des frayères, par exemple. Des zones de reproduction. Après, un des soucis, c'est peut-être quand même qu'ils balancent des poissons d'élevage dans les ruisseaux qui survivent pas forcément.
Ça se fait de moins en moins. Ça a été une pratique, effectivement, durant un temps. Mais on a de plus en plus d'associations qui tiennent des écloseries. C'est-à-dire qu'ils prélèvent des géniteurs, c'est-à-dire des adultes au moment de la reproduction pour prélever les œufs, pouvoir les mettre en élevage de manière à relâcher des alevins qui sont des alevins de souche dans les ruisseaux. Et c'est un travail qui est éminemment prenant hein, puisque les bénévoles doivent aller veiller sur la bonne tenue des écloseries matin et soir pendant quasiment 5 mois de l'année. Donc c'est un investissement considérable et on a beaucoup d'APPMA qui travaillent encore comme ça plutôt que d'aller lâcher des truites de bassin qui, comme vous le dites, ne survivent pas très longtemps.
Voilà, donc du coup, le partenariat avec les pêcheurs est important. Autrement, vous avez des actions en particulier par rapport justement à la restauration de la biodiversité. Quelles sont les actions en cours du syndicat ?
Alors déjà, je reviens sur le partenariat, hein, c'est très important, on a quand même de nombreux partenaires. Alors les pêcheurs sont des partenaires privilégiés et il y a d'autres. On doit également travailler avec beaucoup de proximité avec les agriculteurs qui sont par définition régulièrement en bordure des rivières et qui sont directement concernés par nos projets. Hein, et puis bien sûr les riverains et les collectivités. Et puis il faut pas oublier, on parle des partenaires qui sont concernés par l'impact de nos travaux, mais également nos financeurs. Et donc notre premier financeur, c'est quand même l'agence de l'eau Rameuse qui finance une très grosse majorité de nos projets. Alors, on est souvent subventionné à 80%. On a des projets qui sont très importants, mais qui sont également très très coûteux. Donc on a l'agence de l'eau, puis bien sûr nos collectivités qui participent au financement du syndicat. Voilà pour les principaux. Donc, on fait vraiment un travail en partenariat, que ce soit financier, que ce soit technique, que ce soit... on est dans le concret.
Donc justement, on a parlé un petit peu des riverains avec cette période pour la catégorie 1, en tout cas, la première catégorie. Donc du coup, tu parles, Dominique, des agriculteurs. Du coup, par exemple, quelles sont les bonnes pratiques pour les agriculteurs? Qu'est-ce qui fait partie de ce dialogue avec eux?
Quand on mène des projets, ils sont directement concernés par l'impact de ce qu'on peut faire. Donc déjà on protège, on travaille avec eux. Et Laurent pourra expliquer de manière beaucoup plus technique ce qu'on peut faire. Mais l'élevage notamment pose des problèmes au niveau des rivières si le bétail traverse les ruisseaux, les rivières de manière désordonnée. Donc on travaille avec eux de manière à ce qu'ils puissent exercer leur activité tout en protégeant la rivière, donc en prévoyant des passages ou l'abreuvement du bétail et en permettant par ailleurs, en ne permettant pas justement au bétail d'approcher la rivière par ailleurs, de piétiner la rivière par ailleurs. C'est un exemple. Hein. Bon, l'inquiétude qu'il y a souvent dans nos actions, c'est que les agriculteurs peuvent craindre que nos travaux, que nos aménagements leur réduisent la surface de leur terrain, par exemple, ou détruisent leurs berges. Alors que nous, c'est tout à fait l'affaire. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est que la rivière fonctionne le mieux possible. Donc on a vraiment besoin de beaucoup expliquer, et d'où l'intérêt pour nous de travailler avec la Chambre d'agriculture. On a lancé une réflexion avec la Chambre d'agriculture de manière à ce qu'on puisse bien expliquer tout l'intérêt de ce qu'on fait et qu'on ait des échanges concrets et fructueux.
Je crois qu'il y a une obligation de zones enherbées le long des cours d'eau. Ça s'adresse à quel cours d'eau? Comment
C'est une obligation liée notamment à l'extension des grandes cultures, on va dire, céréales, maïs entre autres. Et donc l'idée, oui, c'est d'avoir cette zone enherbée, comme on dit, sur une largeur de 5 mètres minimum entre la bordure du champ cultivé et le cours d'eau, de manière à avoir ce qu'on appelle une zone tampon, c'est-à-dire que les intrants que les agriculteurs peuvent mettre dans les cultures,
les engrais, quoi.
Voilà, les engrais ou les produits phytosanitaires, puissent avoir une zone comment dire, de filtration qui atténue en fait leur impact sur le cours d'eau et sur la ressource en eau.
Et l'idéal, c'est que dans cette zone tampon, il y ait une certaine végétation ou pas forcément. Alors, ça peut être de la prairie.
Hein. Ça peut être de la prairie. Hein. Le minimum, c'est d'avoir une zone tampon herbacée. Voilà, une bande en herbe, comme on dit. Et dans l'idéal, ça peut être complété, effectivement, donc par de la végétation arbustive ou arborée, qu'on appelle la ripisylve, et qui va permettre de capter et d'intercepter les éventuels polluants qui pourraient ruisseler jusqu'au cours d'eau.
Donc cette ripisylve, il y a une manière de la favoriser, ou il faut favoriser certaines espèces. On va pas parler des plantes invasives comme la renouée. Enfin, on pourra peut-être en parler aussi, mais.
Les plantes invasives prospèrent là où, justement, on n'a pas ou peu de ripisylve. La ripisylve, en fait, c'est une formation de forêt riveraine, qui est tout à fait naturelle et qui aurait tendance à se développer spontanément le long des cours d'eau si on ne vient pas l'éliminer.
Oui, des plantes qui aiment l'eau, en tout cas, donc du genre les saules, les aunées, les aulnes.
Tout à fait. On avait les frênes qui étaient très présents et qui en plus participaient au bon maintien des berges, donc qui sont un peu touchés par la maladie du frêne, la calarose, ces dernières années. Mais on constate que certains individus arrivent à résister, donc une forme de sélection naturelle. Et on compte justement sur cette ripisylve pour à la fois jouer un rôle d'épurateur, mais aussi pour maintenir la terre des berges lors des épisodes de crue. Hein, c'est un cercle vertueux. Accessoirement, tout à l'heure on parlait des périodes de canicule et de déficit de la ressource en eau, la ripisylve permet de projeter de l'ombre sur le cours d'eau et donc de limiter l'évaporation en période estivale, tout en maintenant, entre guillemets, des températures raisonnables du cours d'eau, puisque le cours d'eau n'est pas exposé en plein soleil à ce moment-là. Et accessoirement, on a des travaux de chercheurs qui sont menés actuellement dans le cadre de ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, qui montre que cette ripisylve permet aussi de favoriser par le système racinaire et les mycorhizes, de favoriser le transport de l'eau jusqu'au cœur des parcelles, jusqu'à plus de 100 ou 150 mètres du bord du cours d'eau vers l'intérieur des prairies, par exemple.
Oui, par l'absorption, par effectivement tout le
par capillarité, voilà.
Donc du coup, ça c'est un peu la ripisylve naturelle, donc du coup, inversement, il faut éviter d'implanter certaines espèces près des cours d'eau.
Effectivement, on a toute une liste d'espèces à éviter qui ont tendance à bien se plaire au bord de nos cours d'eau. Vous évoquiez tout à l'heure la renouée du Japon, hein, effectivement, maintenant tout le monde commence à la connaître, hein, puisqu'elle est omniprésente à proximité des cours d'eau et dès que le terrain a été un petit peu travaillé. Par le passé. On a la balsamine de l'Himalaya, mais parmi les plantes que l'on trouve encore, par exemple, dans le commerce, qui ont tendance à être invasives en bord de cours d'eau, on peut parler du sumac de Virginie, ou alors des spirées ornementales, qui certes sont très décoratives au jardin, hein, parce que ça fait des floraisons roses, blanches, mais par contre, ça a tendance à coloniser assez rapidement les berges de nos cours d'eau et nos milieux humides.
Voilà, je parlais pas forcément des plantes invasives qui effectivement peuvent représenter un groupe particulier, mais je parlais par exemple des résineux.
Ah oui.
Des plantes à éviter de planter au bord des ruisseaux, alors que finalement peut-être que elles aussi aiment avoir de l'eau à proximité. Mais...
Alors ça va dépendre. On a tendance à penser effectivement que l'épicéa aime bien avoir de l'humidité. Par exemple, l'épicéa, quand il est en présence d'un excès d'humidité, va développer des maladies comme ce qu'on appelle le pied chaud, hein, qui enlève toute valeur au bois, hein, par la suite. Ces résineux, outre le fait que là, pour le coup, ils apportent beaucoup trop d'ombre au cours d'eau, ils ont aussi la particularité d'avoir des racines superficielles qui ne maintiennent pas les berges et qui favorisent le départ de sédiments lors des crues. Ils ont tendance du coup à tomber assez facilement dans les cours d'eau. Et puis, bon, on parle souvent aussi de l'acidification des cours d'eau. Mais je reviens sur l'aspect ombrage. Pour que la vie se développe en rivière, il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière. Et en l'occurrence, dans les peuplements résineux, On n'a pas, par exemple, de chute de feuillage en période hivernale, là où le cours d'eau aurait besoin de lumière pour stimuler un petit peu la vie des plantes aquatiques, notamment au printemps. Et en ce sens, effectivement, les résineux sont néfastes. On constate des différences de densité de population, hein, de poissons, qui sont de l'ordre de 1 à 10 entre une forêt de résineux, un cours d'eau, un ruisseau sous forêt de résineux, ou sous une ripisylve classique composée essentiellement de feuilles.
Voilà, sans compter effectivement que le fait que les épicéas aient un enracinement superficiel fait que parfois avec des coups de vent ou avec l'érosion simple, ils peuvent tomber, faire des barrages, créer des barrages. Voilà, donc on va faire du coup une nouvelle pause musicale.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la ronde sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Voilà, donc Dominique Andrès qui est encore président au moins jusqu'aux prochaines élections. Ensuite, je ne sais pas.
On verra.
Voilà, donc du coup, on va repartir un petit peu sur ce qu'on avait commencé à aborder, c'est-à-dire les projets en cours et peut-être les projets à venir, ou même aussi des projets qui sont terminés et qui ont montré leur éventuellement leur efficacité.
Alors ces projets, pour la plupart, comme disait Laurent tout à l'heure, ce sont des projets qui ont été initiés par nos collectivités, hein, puisque faut savoir que tous ces projets autour des rivières prennent énormément de temps. Hein, quand on garde une frise chronologique, quand tout va bien, hein, si toutes les planètes sont alignées, ça pourrait peut-être prendre 7-8 ans un programme, mais très souvent ça va bien au-delà, c'est 10-15 ans, je crois même qu'on a des programmes qui vont encore au-delà. Hein, tout simplement parce que on commence par imaginer le projet, on fait un diagnostic. À part de ça, on élabore des projets, des travaux, des projets de travaux, et puis on concerte. On évoquait tout à l'heure, la concertation est une partie importante. Il y a toute la partie dossier administratif qui est extrêmement longue aussi. Et finalement, les travaux ne durent pas si longtemps que ça, mais se font au bout d'une de tout un processus qui est assez long. Hein, donc, ce qu'on mène, les premiers travaux que le syndicat Mix Moselle-Amont a mené, ce sont des travaux qui sont sur le secteur de Remiremont, mais ils ont pu être menés parce qu'ils avaient été conçus bien avant. Hein, on a travaillé, par exemple, on a fini des travaux sur le Grand Fouchot, sur le ruisseau de Seux, on a des travaux en cours sur le Réhéré. Et puis il y a d'autres projets, un projet qui va aussi démarrer sur le secteur, enfin sur la confluence, les secteurs de la confluence Moselle-Moselotte. Mais sur le secteur, on a également donc des projets sur lesquels on mène les études et on espère bien que les travaux pourront déboucher. C'est sur la Haute-Moselle entre la source de la Moselle et Rue. On a également sur les Hauts-de-Vosges des projets qui ont démarré depuis longtemps et qui avancent maintenant, c'est sur la Haute-Moselotte. Bon, sur la Vologne, il y a déjà des projets qui ont été menés et on va redémarrer avec un aspect plus sur la continuité écologique. Bon, je parle de la partie Hauts-de-Vosges, hein. Et puis on a également des projets qui sont peut-être plus ambitieux, mais bon, qui démarrent plus tard, enfin plus ambitieux. Des projets importants, on va dire, sur le secteur de Secours Gripport, tout à fait en limite de la Meurthe-et-Moselle, avec un gros projet de reméandrage, de comblement de d'anciennes gravières et de reméandrage de la Moselle, en prolongement, en lien avec nos voisins de Meurthe-et-Moselle, de la commune du Pays du Saint-Ouen. Alors c'est un projet là qui est extrêmement ambitieux, mais bon, qui est extrêmement coûteux aussi. Et donc bon, plus un projet qui va à travers la ville d'Épinal, on va commencer à étudier la traversée de la Moselle dans sa traversée de la ville d'Épinal, qui a été corsetée par l'histoire, qui n'a plus du tout qui a perdu son côté naturel. On va retravailler tout ça. Bon, j'en passe parce que le territoire est grand. On peut dire qu'on a vraiment des études et des projets, des programmes sur l'ensemble de notre territoire. Hein. Je pourrais citer le Solonais, j'ai parlé de la Vologne, le Durbion, on a des travaux qui vont bientôt commencer. On a commencé à aussi étudier sur l'Avière. Bon, voilà. On pourrait dire que quasiment l'ensemble de nos cours d'eau de la Moselle et ses affluents sont pris en compte, mais il faudra du temps pour faire aboutir tout ça.
En quoi consistent ces travaux, habituellement, plutôt ?
Alors, ça va dépendre des problématiques que l'on va rencontrer sur le cours d'eau. Il n'y a pas de typicité, mais on retrouve des types d'interventions qui sont concomitants, en tout cas, d'un cours d'eau à l'autre. Parmi les travaux qui sont les travaux qui ont le plus de portée et sur lesquels les résultats sont le plus rapidement visibles, c'est l'effacement d'ouvrages devenus inutiles. Là, on change effectivement de manière assez subite et radicale l'aspect de la rivière, mais on retrouve tout de suite aussi une rivière qui est beaucoup plus naturelle, avec toute une série d'espèces qui viennent très rapidement recoloniser un milieu qui jusque-là était un milieu relativement banalisé. On a des opérations de protection de berges sur les secteurs qui sont soumis à des érosions, et puis on travaille aussi sur des remises en fond de talvegue, hein, c'est-à-dire en fond de vallon, de portions de cours d'eau qui ont parfois été aménagées pour amener justement une force hydraulique sur un moulin une tuilerie à Grandvillers, où on avait dérivé carrément le petit Durbion sur toute une longueur pour faire une hauteur de chute qui pouvait servir à la production de la tuilerie. Et on a récemment, là cet automne, procédé à la remise en fond de talvegue sur 800 mètres linéaires de ce ruisseau qui est un ruisseau pépinière, c'est-à-dire c'est typiquement le genre de ruisseau dans lequel les truites vont venir se reproduire. Et donc on mesurera très rapidement les effets de ces travaux d'ici un ou deux ans. On fait des suivis post-travaux pour mesurer leur efficacité, avec certainement un accroissement des peuplements de truites sur la partie de l'amont du Durbion, puisque par ces travaux on a restauré plus de 10 km de continuité écologique, c'est-à-dire de tronçons de rivière durant lesquels les poissons peuvent migrer sans rencontrer d'obstacles pour gagner leur site de reproduction.
Donc les obstacles, il faut... on voit par exemple à Épinal, à traverser, il y a des barrages, mais qui sont en permanence dans l'eau, et il n'y a pas de seau, on va dire. Donc, parfois des petits seaux, des petites cascades améliorent l'oxygénation, ou quelle est la limite un petit peu S'il y en a une.
Il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire qu'en fonction du type de poisson qui doit être le poisson dominant dans un cours d'eau, hein, donc salmonidé ou cyprinidé, donc barbeau, carpe, etc., les capacités de saut, de franchissement sont différentes. Donc, on considère qu'au-delà de 30 cm, 30-40 cm, on commence à se retrouver pour la truite sur des obstacles qui peuvent poser souci au franchissement. Surtout s'il n'y a pas ce qu'on appelle de fosse d'appel, c'est-à-dire un creux au pied de l'ouvrage qui permette au poisson de prendre son élan pour sortir de l'eau. Donc c'est très particulier. Ouais, à chaque fois, on est obligé de mener des études précises sur chacune de nos interventions.
Voilà, donc on va peut-être faire une nouvelle pause musicale avant de conclure. Voilà, du coup, Laurent Topiac, tu voulais faire une conclusion?
Oui, en fait, on discutait pendant le morceau. C'est vrai que le morceau évoque le fait de travailler tous ensemble. Et c'est ce à quoi on s'attelle au niveau du syndicat mixte Moselle-Amont, puisque un des points importants qu'il faut noter aussi, c'est que nous ne pouvons mener de travaux qu'avec l'accord des propriétaires des terrains concernés. Et en ce sens, tout un chacun qui est propriétaire de parcelles en bord de cours d'eau peut être un élément bloquant ou peut faciliter aussi le travail du syndicat mixte Moselle-Amont pour essayer de regagner une qualité d'eau, une qualité de milieu qui soit compatible avec la préservation des intérêts de la collectivité pour les années à venir. Hein, c'est-à-dire qu'on parle vraiment là de ressources en eau, tant sur la qualité que sur la quantité.
Oui, c'est important aussi parce que effectivement, la ripisylve et la la bonne santé de la rivière fait aussi l'alimentation des nappes phréatiques, puisque en fait on a parlé du ruissellement, des infiltrations sur les sols, mais aussi à l'intérieur des lits des rivières, il y a aussi une infiltration qui alimente les nappes phréatiques.
Oui, pour schématiser, oui, ça peut être ça. Et puis beaucoup de collectivités pompent directement leur eau potable aussi. Et on a une très grande collectivité en Meurthe-et-Moselle, hein, Nancy, qui pompe 80% de son eau potable dans la Moselle et qui donc récolte l'eau qu'on lui envoie. Donc c'est si ça. On lui envoie une eau de bonne qualité, c'est gagnant-gagnant.
Voilà, en tête de bassin, on ne se rend pas tout à fait compte parce qu'on a généralement des sources qui alimentent l'eau potable. Mais plus on descend en aval et plus ils ont recours au lit des rivières, enfin à l'eau des rivières. Dominique Andrès, Monsieur le Président, veux-tu conclure ?
Moi, je crois que ce qui est important de dire, déjà, faut savoir que le travail et les missions qu'on mène, c'est une mission à l'échelle européenne. Il y a une directive au niveau de l'Europe qui vise, alors c'est pour 2027, on n'y arrivera pas forcément, mais on est sur la bonne voie, qui vise à restaurer, à ce que toutes nos rivières, nos fleuves rivières en Europe aient une qualité, soit de qualité, et une qualité écologique qui soit... bonne, je crois que c'est de bonne qualité écologique.
Pour pouvoir se baigner.
se baigner, mais les enjeux derrière tout ce que nous faisons, ce sont des enjeux qui sont énormes. Hein. On a nos travaux, tous nos projets ont des conséquences en termes de prévention des inondations. Bon, même si on travaille spécifiquement là-dessus, tout ce que Laurent a pu décrire au cours de l'émission a une action pour ralentir l'écoulement de l'eau et donc agir positivement contre les inondations, notamment les inondations par ruissellement. Mais derrière, on a des enjeux d'eau potable, on a des enjeux de biodiversité. Donc on a vraiment des enjeux énormes. Alors parfois, y compris chez les élus, on nous fait les gros yeux par rapport aux sommes qu'on peut avancer parce que tous nos programmes sont extrêmement coûteux et c'est financé quasiment intégralement par de l'argent public. Mais il faut bien comprendre que les investissements qu'on fait c'est pour l'avenir sont précieux et nous préservent de dépenses qui seront bien plus importantes.
On peut considérer que les cours d'eau, c'est la trame bleue, c'est des couloirs aussi de biodiversité, comme on peut en créer à travers les haies ou des choses comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un décret qui va paraître, qui va peut-être, par rapport à la loi du pont, qui va favoriser, enfin simplifier les dossiers pour l'arrachage des haies. Non, vous avez entendu parler de ça.
Je pourrais pas expliciter.
Il y a une pétition actuellement en cours sur agir pour l'environnement, je crois.
Mais ce qui est certain, c'est qu'en matière d'eau, il faut vraiment agir. Il faut vraiment une action collective. Alors, action collective, c'est sur les rivières, mais bien au-delà des rivières. Et puis, il faut que les collectivités agissent, mais également les particuliers. Donc, il faut vraiment sensibiliser l'ensemble des habitants du territoire. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire. Hein. C'est vraiment notre objectif. On a tous nos projets concrets, des travaux. Mais derrière, on a vraiment besoin de donner une information sur tout le territoire, d'associer tout le monde. Et pour ça, je veux quand même insister, parce que vous avez pu entendre Laurent s'exprimer sur tout ce qui mène. On a la chance au niveau du syndicat d'avoir une belle équipe de techniciens. C'est vraiment très spécifique, mais comme travail. Et ils font un très gros travail sur l'ensemble de notre territoire et je tenais à le souligner.
Voilà, et puis donc le rôle important des élus qui doivent être les intermédiaires entre le syndicat et puis les collectivités et les citoyens, hein, donc puisque c'est un travail effectivement collaboratif de tout le monde et chacun a son rôle à jouer. Voilà, merci, bonne écoute de l'émission et à une prochaine. Au revoir.